Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant. En ce dimanche de la fête de la musique, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Jean-Christophe Robert de l'église protestante Unie d'Auteuil à Paris. Joueur de hautbois, il nous raconte comment la réforme protestante a redéfini le rôle de la musique et du chant au XVIe siècle. Il s'agissait désormais de chanter pour témoigner, pour attester et d'être en phase avec des mélodies célèbres de son époque. On y revient de suite plus en détail avec le pasteur Jean-Christophe Robert.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ce matin un parcours méditatif sur des textes de la Bible. En ce jour de la fête de la musique, la réforme protestante s'est comprise dès ses débuts comme une affirmation publique de la foi. Et cela s'est fait en musique, justement. C'était non pas une fête de la musique, mais une fête par la musique de la gloire de Dieu. Alors on va écouter des airs de la Réforme et de Bach à la découverte d'un patrimoine musical classique. Il y a 500 ans, la foi chrétienne est devenue une espérance. Dans une époque qui était marquée par la mort, les guerres, les épidémies déjà, on avait peur de l'enfer et la Bible est devenue, à ce moment-là, un livre porteur d'une formidable espérance. Jusque-là, l'attention des fidèles était attirée sur l'au-delà plus que sur la joie de la vie ici-bas. Et soudain, un peuple tout entier scandait sa foi en musique. On est à la fin du Moyen-Âge et Martin Luther voit s'initier un profond renouvellement des idées vers une transition entre pensée médiévale et pensée moderne. Et justement, sa théologie est portée par la musique, elle participe de ce courant novateur. Face à une foi visible avec force procession, avec toute cette statuaire décorative et les peintures sacrées, avec une théologie des œuvres méritoires visibles, avec l'Eucharistie en place centrale, eh bien, Martin Luther réhabilite, lui, l'écoute. Et il va conduire la spiritualité vers l'audition plus que vers le regard. C'est d'elle que naît la foi lorsque la Bible est droitement prêchée. La musique se fait soudain servante du message, aidant à l'attention, à la mémorisation, à l'unification même de tout un peuple. On est à la fin du Moyen-Âge, au tout début de l'imprimerie, et le latin reste toujours la langue des instruits, leur conférant l'influence et les privilèges d'une élite dominante. Alors Martin Luther développe l'usage du choral, qui est un catéchisme chanté, traduit dans la langue de tous. Avec lui, beauté et sagesse savent aussi se faire simple pour répondre à la soif d'absolu. Il traduit pour chacun la Bible, jusque-là privilège des intellectuels, il rend les écritures à son peuple, il forge la langue allemande moderne, rien moins que cela. Et le choral luthérien vient en renfort, liant parole et chant avec une syllabe pour chaque note. Ainsi, le peuple scande son espérance. Je cite Martin Luther, « Je place la musique en première place après la théologie ». Cela ressort de l'exemple de David et de tous les prophètes qui exprimèrent en chant et en vers tout ce qu'ils avaient à dire. Pour Luther, l'être humain se définit dans son rapport à Dieu. Il est un être fondamentalement relationnel, créé à l'image du Dieu qui parle en Jésus-Christ, parole incarnée parmi les siens. Et le catéchisme chanté devient alors un outil populaire subtil de vulgarisation, avec la musique en appui mnémotechnique de la prédication. Par leur pouvoir d'association d'idées, ces chants vont diffuser le petit et le grand catéchisme de Luther, et ces chorales correspondent justement aux thèmes étudiés. Je pense au Notre Père, au Credo, au baptême, à la scène, aux 10 commandements. Luther inscrit l'évangile dans la culture, et c'est ça qui est important, je trouve. Les chorales deviennent le socle de la musique allemande. Ils sont au service de la louange. cette œuvre qui découle pour Luther d'une foi authentique. Dans son sermon sur les bonnes œuvres, il écrit « Après la foi, il n'y a rien de plus grand à accomplir si ce n'est de célébrer, prêcher, chanter, exalter de toute manière et magnifier la gloire, l'honneur et le nom de Dieu. La langue, la voix, le langage et la bouche ont été créés pour cette seule fin. » Fin de citation. Luther veut rompre avec une compréhension spéculative et scientifique de la musique. Au Moyen-Âge, la musique est perçue à l'époque comme étant au départ de la science et de la philosophie, considérée comme formée des mêmes éléments de l'univers, taille, poids, nombre, et le réformateur voit au contraire en la musique un don de Dieu pour sa gloire. Alors il reprend des mélodies populaires qui sont au top 50 de l'époque, car il ne faut pas, dit-il, laisser les belles mélodies au diable. Alors on va écouter un psaume qui est tiré de cet héritage protestant de la Réforme, le psaume 23.
Dieu, mon berger, me conduit, me garde.
C'est toute la Bible qui parle de beauté. La création du monde est célébrée comme quelque chose de magnifique. C'est Dieu lui-même qui vient mettre l'ordre dans le chaos primitif. La multiplicité des formes vitales est une splendeur. À chaque jour de création, on nous raconte un Dieu qui estime tout cela très beau. Et au septième jour symbolique de la création, c'est même le repos admiratif de Dieu devant ses œuvres, le temps de la louange et de l'émerveillement. Dans la Genèse, on nous présente au passage Youbal comme le prédécesseur de ceux qui jouent de la harpe et de tous les instruments de roseau. On pourrait dire qu'il est l'archétype de l'artiste. Je pense aussi au premier livre des Rois, qui nous présente la magnificence du temple de Salomon, véritable œuvre d'art. Et puis, comment ne pas penser à Ézéchiel, nous représentant Jérusalem comme une femme à la beauté parfaite, jamais suspecte en soi. Jésus lui-même, je pense, était habillé d'une tunique sans couture, on pourrait dire haute couture, de grand prix, qui fut récupérée par tirage au sort. Jésus s'habillait avec raffinement. Il fut lui-même l'incarnation de la parole. Nous croyons qu'à sa suite, le chrétien est invité à interpréter la parole de Dieu au sens musical du terme, par une incarnation audacieuse. Alors on va lire un extrait d'un psaume, le psaume 8, qui à l'origine était une poésie chantée, mais on a perdu la musique. Néanmoins, la poésie, la beauté du verbe demeure, et j'espère que vous allez aimer ce psaume qui est une prière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu? Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. pour nous, protestants, très vite, on s'est mis à chanter ces psaumes qui font vraiment partie de notre patrimoine musical. Et pour nous, la musique est un cri de louange et de gratitude. Je repense à Martin Luther qui libère le chant d'église vers l'affirmation de la foi par la louange. Et il délivre le chant d'église d'une conception justement spéculative de la musique. Pour Luther, et ça c'est très nouveau à son époque, il n'y a aucune différence entre musique savante et musique populaire. Toutes les musiques sont bonnes pourvu qu'elles servent la gloire de Dieu. Pour lui, il n'y a plus de distinction méprisante entre grande musique, entre guillemets, et musiquette. Seul reste le discernement entre ces musiques qui suscitent la foi ou bien celles qui détournent la foi de son objet. Il y a chez Luther l'idéal d'une grande exigence en même temps avec l'idéal d'une grande ouverture d'esprit. Et il sait laisser jaillir la beauté jusque dans sa simplicité. On pourrait dire que c'est la définition même du design. Et si tout cela se passait aujourd'hui, je pense que si les mélodies de notre époque étaient davantage prises en compte, eh bien le chant d'église protestant ne se contenterait pas de tout le temps promouvoir une tradition qui a plus qu'un demi-millénaire. Mais le chant d'église protestant serait hissé au top des téléchargements sur les réseaux sociaux, il serait en tête des ventes sur les grandes enseignes de distribution parce qu'il serait une musique de notre époque, dans l'époque, et c'est ça la méthode de Luther, non pas se crisper sur des traditions anciennes seulement, même si elles sont belles, même si nous en sommes fiers à juste titre, mais aussi inventer de nouvelles traditions, oserais-je dire. Parce que cette église, à l'époque, cette église luthérienne était au centre d'une expression culturelle novatrice, très très largement saluée et entendue. On pourrait dire que l'évangile était ainsi placé au cœur de la culture. Et ça pose question pour aujourd'hui, je pense. Voilà, alors on va lire ce passage de l'Écriture tiré de Matthieu, l'évangéliste, au chapitre 10, au verset 26 à 33. Et ce passage encourage justement à la proclamation publique dans un contexte de terreur, de persécution, de troubles et d'angoisse. Alors Jésus, si l'on en croit Matthieu, nous dit aujourd'hui encore « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Nous avons ici, dans cet évangile, une critique contre l'ésotérisme. On est vers l'an 90, à l'époque de la primitive Église. Et le rédacteur de l'évangile dénonce comme un détournement au profit des seuls initiés le risque d'une dérive de la prédication d'une façon donc élitiste. Il met en garde contre toute tentative de rapt de l'évangile par une classe de seuls connaisseurs, des gnostiques peut-être. En tout cas, le message peut être dérobé par quelques-uns ou encore accessible à certains seulement, à une élite pseudo-intellectuelle. Ce passage nous rappelle que la bonne nouvelle doit toujours être, si possible, claire, accessible à tous. La réforme protestante, en son temps, a été un exemple de cette vulgarisation du message dans la langue de tout un chacun. Et dans le contexte de persécution qui est celui de la primitive Église, eh bien ce passage de Matthieu au 10e chapitre, versets 26 et 33, insiste sur le risque pour les croyants, déjà à l'époque, de se faire ignorer, hein, de raser les murs, de se réfugier dans des communautés du silence, dans des églises souterraines, et on peut le comprendre, c'était déjà l'église des catacombes. Mais dans cette persécution, eh bien, la parole de Jésus résonne pour son église, et cette parole d'évangile l'exhorte à plus d'audace, et lui est aussi recommandé, juste auparavant, la prudence, l'intelligence des serpents, je pense au verset 16, juste avant. En tout cas, Matthieu, l'évangéliste, tient à joindre à son exhortation un encouragement. Ne craignez pas, verset 26. Ne craignez pas, verset 28. Soyez sans crainte, verset 31. Il y a une insistance, hein. N'ayez pas peur. On dit souvent que c'est le pape qui a été incroyable, parce qu'il a dit « n'ayez pas peur ». Mais le pape n'a fait que citer cet évangile, on l'oublie souvent. Et quelque part, ce pape était quand même tout à fait protestant et biblique, hein, dans sa méthodologie. En tout cas, dans ce passage, on nous dit que si même les cheveux de notre tête sont tous comptés, alors Dieu ne nous laissera pas tomber. Je vous propose d'entendre un air de cantate de Bach qui affirme cette certitude à sa façon que l'on peut placer en Dieu tous les domaines de sa vie. C'est même une confession de foi très paisible dont le titre est « L'âme repose entre les mains de Jésus ». Jésus nous encourage à témoigner sans crainte, à prendre le relais quand il ne sera plus là. Cet enseignement de l'Évangile n'est donc pas réservé à quelques-uns. Il faut le proclamer sans crainte, et cette parole, elle va s'imposer de toute façon d'elle-même. Jésus nous encourage à ne jamais avoir peur, et on retrouve cette même notion dans le sermon sur la montagne, aussi dans le récit de la tempête apaisée. Les persécuteurs peuvent tuer le corps, mais pas l'âme de cette parole. Pour Jésus, il faut plutôt craindre Dieu, qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la Géhenne. Et la Géhenne, c'était la poubelle de Jérusalem. Tout le monde savait de quoi il parlait. Il faut craindre Dieu et non les hommes. J'aimerais citer Bonhoeffer qui disait à ce sujet « Celui qui craint les hommes ne craint pas Dieu. Si Dieu prend soin des moineaux, à plus forte raison, prendra-t-il soin de ses témoins? Il n'en tombera pas un à terre sans la volonté de Dieu. Le martyr est parfois le prix à payer pour les disciples. » Jésus répète pourtant 3 fois en 6 versets de ne pas avoir peur. Le rôle du chrétien est de manifester la gloire de Dieu. Fin de citation. On pourrait dire aussi avec Nelson Mandela qui dit la même chose à sa façon. Je cite, quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Alors dans la Bible, Dieu se présente comme le distant. Est-ce qu'il, que veut dire en réalité craindre Dieu? On peut penser que c'est avoir peur de lui, à la limite. Mais je pense que Dieu dans la Bible se présente non pas comme un copain, mais comme le Dieu distant, le Dieu transcendant. Personne n'a jamais vu Dieu, et voir Dieu c'est mourir. C'est pourquoi Moïse n'a vu Dieu que de dos, sans prononcer son nom par respect. Dieu ne se présente pourtant aux croyants que comme celui qui parle, qui entend, qui change de direction et qui se laisse convaincre. C'est quand même paradoxal. Il y a donc une tension dans notre vie entre la crainte et l'espérance, entre la gloire de Dieu et le vertige qu'elle devrait normalement nous inspirer devant sa grandeur, et puis cette attirance pour sa proximité. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous disent les proverbes et puis aussi le psaume 111. Il y a une tension, voyez-vous, entre la crainte devant l'étrangeté de ce Dieu qui fait éclater la petitesse de nos catégories personnelles et puis l'attirance qu'on peut avoir devant sa capacité à parler, à s'approcher de nous, à écouter notre prière, à nous ordonner même de lui parler, ce qui est un grand honneur pour nous. Craindre Dieu, c'est recevoir de lui la permission que nous lui parlions en face à face, ce qui est extrêmement intimidant, bien sûr, mais les protestants, à ce sujet, ont l'habitude de tutoyer Dieu. Notre peur est surmontée par l'amour de Dieu en notre vie. Notre prière tout entière reçoit son contenu, non pas de ce que j'ai à dire tellement, mais avant tout de celui à qui elle est dite. Comme l'affirme l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et très souvent, on interprète cette phrase en pensant que nos mots sont incomplets et fébriles, que nous sommes peureusement, piteusement incapables de prier. Mais non, heureusement, le Saint-Esprit améliore ce que nous balbutions. Il nous apprend même à prier d'une façon mature. C'est le tout de notre prière qui est graduellement appelé à devenir prière du Saint-Esprit lorsque ce Saint-Esprit intercède de façon inexprimable. Alors, il s'empare de notre prière au-delà de nos mots, et soudain, eh bien, cela échappe même à toute verbalisation. Notre prière devient le reflet de notre relation à Dieu, elle devient interprétation au sens musical du terme. C'est une incarnation paroxystique, c'est une production, c'est donc une création artistique. Notre vie tout entière devient prière alors qu'elle se débattait jusque-là avec ses obsessions et ses bruits. Et je pense en ce jour de fête de la musique à cette musique qui devient l'affirmation d'une libération. La musique permet d'exprimer cette liberté retrouvée. La louange devient une exultation, dans l'idéal en tout cas. A osé dire son témoignage, lui aussi, à contre-époque. Il est au soir de sa vie, et cette cantate est un peu son testament. Jean-Sébastien Bach a été oublié de son temps. Même la critique l'a conspué, et on a tué le corps de sa musique. Il a failli mourir oublié, ses partitions étaient vendues comme papier d'emballage, mais l'âme de sa musique est restée. On pourrait dire que l'évangile s'est réalisé à travers sa musique. Cette promesse d'une parole qui reste intemporelle, éternelle, qui dépasse les époques. Et À propos de cette paix retrouvée, de cette louange, il écrivait dans sa préface à l'Orgelbüchlein, je cite, « Au Dieu très haut pour l'honorer et au prochain pour qu'il s'instruise ». Je vous propose de lire un extrait du psaume 85 qui, à l'origine, était sur une musique dont on a perdu les notes, mais ça sera néanmoins sur un fond musical. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob, tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dit le Seigneur? Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui l'adore, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur et notre terre porte son fruit. Justice marchera devant lui et paix sur la trace de ses pas. Oui, en ce temps d'épidémie, que Dieu vous donne sa paix, malgré le caractère imprévisible de l'existence. Qu'ils soutiennent tous ceux et celles qui sont hommes et femmes de bonne volonté, ceux qui viennent en secours, je pense en particulier à ceux qui aujourd'hui soignent leurs prochains, que nous allions tous vers une espérance retrouvée. Bon dimanche, courage, confiance, amitié. Au revoir.
Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Et j'en profite pour vous dire au revoir puisque c'est l'une de mes dernières émissions. Dans 2 semaines, vous retrouvez le pasteur Jean-Luc Gadreau, nouveau responsable éditorial du service protestant. Un grand merci à Delphine Lemaire pour la réalisation, pour sa gentillesse, pour ses conseils indispensables à la production d'émissions de qualité. Merci aux techniciens de Radio France pour leur professionnalisme. Et merci à vous, auditeurs du service protestant, pour votre fidélité et votre écoute. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Encore mieux, vous pouvez nous écrire par email à cette adresse communication@fédérationprotestante.org. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Service Protestant. Restez à l'écoute pour les informations suivies de Talmudic présenté par Marquin Lawaknin. Bonne journée à vous sur France Culture. Thank you.